Bienvenue en Tête à tête avec la science, le balado où je reçois des chercheurs et des experts du monde de la vulgarisation scientifique pour discuter de leurs projets de recherche, démystifier des croyances à l'aide des données probantes, exposer les nuances et l'importance de la démarche scientifique, tout cela pour faciliter le transfert des connaissances et prévenir la désinformation. Avec ce balado, mes objectifs sont d'amplifier la voix des scientifiques et de ramener la science plus près du public. Je m'appelle Myriam Baudry, je suis nutritionniste, étudiante au doctorat, et sur ce, je vous souhaite un excellent tête-à-tête avec la science. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à ce 30e épisode du podcast. Aujourd'hui, j'ai eu le grand bonheur de recevoir la psychologue clinicienne Dr Charlotte Gamache, aussi connue sous le nom de Meilleur Jour sur les réseaux sociaux. La pratique de Dr Gamache se spécialise autour des préoccupations liées à l'image corporelle, et ce, particulièrement chez les femmes. Dans le cadre de l'épisode, on discute de l'état de la science sur ce sujet, ainsi que des actions individuelles et collectives pouvant être prises pour l'améliorer. On parle aussi de son livre récemment publié cette année, « Faire enfin la paix avec mon corps », ainsi que des outils qu'il apporte. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et qui est aussi étroitement lié à la pratique de plusieurs de mes collègues nutritionnistes qui voient une clientèle travaillant à rétablir une relation plus harmonieuse avec l'alimentation et leur corps. Dr Charlotte Gamache est passionnée et incroyablement intéressante à écouter. Sans plus tarder, je vous laisse apprécier cette superbe discussion. Bonne écoute! Donc, on est parti. Bon matin ou plutôt bon après-midi, Charlotte, puisque tu es en France en ce moment. Je me sens vraiment privilégiée de te recevoir au podcast, même si on n'est pas sur les mêmes continents. Présentement, comment ça va?
Ça va très, très bien. Puis merci pour cette belle invitation, Myriam. Ça me fait plaisir.
Mais c'est moi qui te remercie. Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui pour pouvoir discuter d'un sujet que je trouve hyper intéressant dans tout ce qui touche l'image corporelle. Tu as une expérience autant comme clinicienne que maintenant créatrice de contenu, autrice, qui va rendre la discussion très, très intéressante, je crois bien. Donc, en commençant, j'aimerais ça que tu nous parles de toi, de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené où tu es aujourd'hui?
Écoute, c'est sûr, c'est une question qui est très simple et à la fois hein, qui porte tellement à réfléchir. J'ai envie de dire, c'est à la fois un concours de circonstances hein, ce qui m'a amenée là où je suis, puis en même temps, quand on regarde derrière, ben on trouve que c'est une trajectoire qui est tout à fait logique, qui fait énormément de sens. Si je me présente, donc je suis Dr Charlotte Gamache, qui est psychologue clinicienne spécialisée dans les troubles de la conduite alimentaire, de l'image corporelle. Donc j'ai une plateforme en ligne hein, où je vais vraiment essayer de sensibiliser, d'éduquer un maximum la population autour de ces enjeux-là. J'ai aussi écrit un livre, donc mon premier livre, sur l'image corporelle. Et après, tu sais, cette grande question, hein, pourquoi le pourquoi du comment? En fait, je pense que ça nous ramène il y a peut-être 30 ans, quand j'étais petite, j'étais déjà en fait animée par le grand désir ou l'appel d'embellir le monde. J'ai toujours eu cette sensibilité-là, peut-être de voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui est de travers, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, toujours pour améliorer le bien commun. Puis au fil du temps, hein, aux études, on a quoi? On a 16 ans, 17 ans, c'est le temps de faire un choix. Puis le choix le plus évident qui m'est venu à l'esprit, c'était psychologue. Parce que j'ai été sensibilisée plutôt jeune aux enjeux liés à la santé mentale. Il y avait des problèmes de santé mentale dans ma famille. Ça me touchait. Je me suis dit, ah ben tiens, si je peux être psychologue, si je peux accompagner une poignée de personnes, ben peut-être que d'améliorer l'univers d'une poignée de personnes, c'est une façon d'embellir le monde finalement. Mm-hmm. Et je me suis concentrée initialement en psychologie de la santé. Donc moi, mon expertise initiale, c'est vraiment la psycho-oncologie. J'ai fait des stages en soins palliatifs, dans les milieux oncologiques. Mon projet doctoral était autour de la communication patient et médecin hein, dans le choix des traitements palliatifs, etc., etc. Et puis, finalement, quand j'ai fini mes études, c'est un peu par hasard. J'ai une amie qui travaille dans une clinique spécialisée dans les troubles de la conduite alimentaire. Elle m'a parlé de cette clinique-là. Puis, j'ai fait le grand saut. Puis, c'est après coup, j'ai réalisé bien, il y a toujours eu le corps, finalement, dans mes intérêts de recherche, dans mes intérêts cliniques. Il y a toujours eu le corps, finalement, au centre des préoccupations, que ce soit apprendre à vivre avec un corps qui s'affaiblit, ou apprendre à vivre avec un corps qu'on ne trouve pas aussi joli ou qu'on a du mal à accepter, ça revient vraiment à la relation soi, hein, l'esprit et le corps, finalement. Puis, il y a quelque chose que beaucoup de psychologues, peut-être beaucoup de nutritionnistes peuvent éprouver, c'est cette espèce de sentiment d'impuissance. Je ne sais pas si toi, hein, ça te parle dans ton expérience, mais... Ouais. Quand on commence à accompagner des femmes, ben on peut en accompagner une petite dizaine à la fois, hein, quelques dizaines à la fois, et là, on se rend compte que c'est vraiment la pointe de l'iceberg. On se rend compte que les personnes qui sont devant soi, celles qu'on peut aider, c'est les plus privilégiées finalement. Celles qui ont conscience d'avoir ce problème-là, celles qui savent où trouver l'aide et celles aussi qui peuvent se payer cette aide-là. Donc, c'est un peu dans ce contexte-là que l'idée de Mère Jour a commencé. Hein. Je me disais, ben c'est génial d'aider une vingtaine de femmes peut-être en ce moment, mais le problème, ce problème sociétal, ce problème qui touche la grande majorité de la population et surtout les femmes, comment est-ce que je peux aider, soutenir, rejoindre le plus grand nombre de personnes? Et donc, le projet Mère Jour a pris forme en 2020 à peu près. Et puis, c'est aussi dans cette lignée-là, hein. Écrire un livre, pour moi, c'était un peu la suite logique de « tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux ». Les réseaux sociaux, il y a quand même cette notion-là, ou Internet, de consommer rapidement, alors que la relation au corps, ça demande du temps, ça demande de l'investissement. Et j'ai trouvé que le livre était une bonne façon d'aider les femmes concernées à mettre le pied à l'étrier, finalement, puis à se pencher sincèrement sur cette question-là.
Oui, mais c'est ce que tu fais avec Meilleur Jour, puis c'est comme ça que je t'ai connue aussi. C'est vraiment, en tout cas, ta plateforme, le contenu que tu crées, c'est vraiment fabuleux. Puis 2020, le timing a sans doute été bon aussi, parce que, puis tu sauras me le dire, tu sauras mieux que moi, en fait, mais il y a beaucoup de gens, je crois, avec la pandémie, le stress qui s'est rajouté, beaucoup de gens qui se sont mis à passer beaucoup plus de temps sur leur téléphone, là, toutes les rencontres qui sont devenues sur Zoom, Teams, où est-ce que là, on se voit constamment, puis j'imagine que ça a pu venir exacerber les préoccupations à l'égard de l'image corporelle. Donc, ton contenu est sans doute tombé vraiment à point pour ça.
Oui, oui, absolument. On l'a vu, hein. Je pense que la pandémie peut avoir ce double effet-là, soit exacerber les préoccupations corporelles ou les diminuer, parce qu'on sentait peut-être sur notre style désert, tant chez soi, en confinement, loin des regards, loin du jugement, loin de la pression à correspondre à certains standards. Donc, je pense qu'il y a eu quand même un soulagement auprès de plusieurs personnes qui a fait du bien. Mais pour d'autres personnes, il y a eu des changements pondéraux, hein, des changements au niveau de la silhouette notamment, parce que notre quotidien était différent, une augmentation des préoccupations corporelles, une humeur qui est plus fragile, passer plus de temps, comme tu le dis, hein, le Zoom, c'est formidable, ça nous permet de rejoindre tout le monde n'importe comment, n'importe quand, sauf que oui, on voit toujours cette petite vignette-là avec notre visage. Ça ouvre la voie à une vérification qui est constante, plus d'usage de réseaux sociaux. Donc, oui, je pense que ça arrivait à un bon moment dans la mesure où, et on en parlait de plus en plus, hein, même dans les journaux, dans la presse, on en parlait, là. Il y a une augmentation des taux de troubles de la conduite alimentaire, une augmentation des préoccupations corporelles. Donc, ça a attiré une certaine attention, ça a commencé à sensibiliser. Et en même temps, ben, je pense que les gens avaient du temps à la maison, du temps pour naviguer, du temps pour lire des ressources, etc., etc.
Puis, avant de sauter dans le vif du sujet, mais en fait, je pense que ce serait intéressant de définir d'entrée de jeu l'image corporelle, qu'est-ce que c'est?
Écoute, j'ai envie de dire, c'est quand même assez complexe, puis on est encore en train de chercher à la définir. On est encore en train de chercher à arriver à un consensus autour de la définition de l'image corporelle. Dans la vie de tous les jours, on peut dire que c'est vraiment la représentation ou l'expérience qu'on a de notre propre corps. Et après, si on veut y aller de manière un petit peu plus détaillée, tu sais, l'image corporelle, son image corporelle, c'est comment on se représente notre corps. Donc, c'est pas juste son apparence physique, mais c'est aussi ses habiletés, hein, ou ses qualités, ses caractéristiques, hein, en santé, fort, fragile, malade, etc. C'est comment on perçoit, on imagine le regard des autres sur notre corps. Hein, puis ça fait souvent grandement partie des insatisfactions, des préoccupations corporelles de la personne. Hein. Je te disais un peu plus tôt, des fois, pendant la pandémie, on était bien à la maison, loin des regards, hein, parce qu'on peut s'imaginer un regard qui est vraiment dans le jugement, hein, un regard extérieur qui est dans le jugement, qui est dans la désapprobation. Ou au contraire, hein, on me trouve belle, on me désire, ça peut être l'un ou l'autre. Ça va être les sentiments qu'on éprouve pour notre corps. Hein, je l'aime, j'ai de la reconnaissance pour lui, de la gratitude, j'ai du dégoût, j'ai de la colère envers lui, etc. Et comment on se sent dans notre corps. Hein, quand on a une image corporelle positive, on va se sentir comme à la maison dans notre corps. C'est une image que je trouve magnifique, comme si il peut avoir une tempête, il peut avoir un tsunami autour de soi ou dans le monde extérieur, mais la maison, c'est un refuge où on se sent toujours bien, en sécurité, tout comme on peut se sentir inconfortable, etc., etc. Donc, voilà ce qu'est une image corporelle.
Oui, donc il y a vraiment plusieurs dimensions, autant bon, la perception des autres, notre propre perception, nos sentiments à son égard. Puis j'aime beaucoup aussi l'image de, quand tu dis, de sentir que c'est comme une maison, puis ultimement, c'est un peu ce que c'est, là, notre corps qui va nous accompagner toute notre vie, qui nous permet de faire une panoplie de choses. Là, donc, c'est une définition qui est super intéressante. Puis, ce serait quoi les caractéristiques, disons, c'est d'une personne ayant une image corporelle qui est plutôt positive. J'imagine que c'est un spectre, là. Ce n'est pas noir ou blanc. Donc, par rapport aux différentes dimensions que tu as nommées, comment on pourrait définir ça?
Oui. Ben, en fait, déjà, ce qui est intéressant de savoir, c'est que une image corporelle négative et une image corporelle positive ne sont pas des opposés. Ou ce ne sont pas deux pôles opposés d'un même continuum, mais c'est vraiment deux concepts plutôt différents. Donc, même une personne qui a une image corporelle positive, hein, un rapport sain avec son corps, va quand même avoir des manifestations d'une image corporelle négative. Donc, puis ça, je trouve ça important de le nommer parce que souvent, disons, j'accompagne des femmes ou certaines femmes font une démarche pour faire la paix avec leur corps, puis elles se disent, ben écoute, tel jour, je me suis regardée devant le miroir, je me suis sentie moche, puis ça a été vraiment décourageant pour moi. Je pensais que j'avais cheminé, je pensais que j'étais mieux dans mon corps, j'aurais pas dû éprouver ça. Hein? Donc, c'est important de normaliser que faire l'expérience de sentiments ou d'émotions plus douloureuses en lien avec son corps de manière ponctuelle, c'est normal, puis c'est pas exclu dans ce qu'on va reconnaître comme étant une image corporelle positive. Maintenant, qu'est-ce qu'une image corporelle positive? Hein? Qu'est-ce qui va caractériser la personne qui jouit hein, de ce beau rapport-là avec son corps? Bien, ça va être dans un premier temps d'être capable d'apprécier le caractère unique de son corps. Hein? On a beaucoup une représentation assez restreinte hein, de ce qu'est la beauté ou de ce qu'est un corps valable à l'heure actuelle. Puis il y a quand même cette notion-là d'amour ou d'acceptation conditionnelle. Donc, si je correspond à ces standards de beauté, alors mon corps, hein, je l'accepte, je l'aime, etc. Donc ici, dans ce premier critère-là, on est vraiment plus dans apprécier le caractère unique de ton corps. Hein? Même si certaines caractéristiques de ton corps ne sont pas parfaitement alignées avec les standards de beauté, ben c'est quand même une partie de ton corps qui est légitime, qui a sa place et qui fait partie de toi. Hein? Donc, ne la rejetons pas. Ça va être d'être capable aussi d'admirer son corps, d'éprouver une certaine admiration pour son corps, une certaine reconnaissance pour son corps. Il y a quelque chose d'absolument dommage dans le fait que l'attention, quand on pense à notre corps, l'attention est portée vers l'apparence du corps. Alors que notre corps, sa fonction initiale est de nous permettre de vivre finalement et de nous permettre de mener une belle vie. Hein? Donc d'être capable aussi de reconnaître et d'apprécier ce que notre corps nous offre et nous permet de faire. Ça va être aussi hein, des personnes qui vont être capables de mettre l'accent sur leurs atouts plutôt que de focusser sur ce qu'elles aiment moins de leur apparence physique. Et ça paraît tout simple, hein? Mais quand on est mal dans notre peau, mal dans notre corps, notre regard va être invariablement attiré vers ce qui ne va pas et ce qui devrait changer. Hein? Donc, la personne qui est bien dans son corps reconnaît qu'il y a des aspects de son corps qu'elle trouve moins jolis ou qu'elle aime moins, mais ce n'est pas l'objet de son attention. Donc, elle va plutôt chercher à se mettre en valeur. Hein? Et puis, il y a une composante hyper importante ici, c'est d'apprendre, hein, c'est des personnes qui savent reconnaître les menaces, parce qu'il y a des menaces à notre bien-être corporel. Donc, ce sont des personnes qui arrivent à les reconnaître et à les filtrer. Hein. Il y a des messages, comme dans nos relations interpersonnelles, il y a des messages qu'on refuse d'entendre, qu'on refuse de laisser évoluer dans notre vie, mais c'est pareil. Hein, donc, les messages qui sont toxiques, qui nuisent à notre bien-être corporel, on les repousse. Et les messages qui nous aident à nous sentir bien avec notre corps, ben, on les laisse entrer. Hein, donc, c'est ce qu'on appelle le filtre de protection ici.
Donc, ce serait un peu justement une sorte de filtre autant par rapport à... Bon, tu entends quelqu'un faire un commentaire à l'égard du corps d'une autre personne, tu arrives à te... mettre une certaine barrière ou être moins affecté peut-être par les idéaux de beauté qui sont véhiculés et tout ça. Donc, c'est intéressant, cette espèce de composante-là d'esprit critique ou d'espèce de petit bouclier qu'on est capable d'avoir face à ça.
Ah, absolument, puis c'est une composante clé et je pense qu'on a tout besoin de développer ce filtre-là. Et à mon avis, c'est, tu sais, quand on était jeune, il y avait FPS au secondaire, éducation sexuelle, ou je pense que ça va faire partie du cursus scolaire, à mon avis, d'aider les jeunes à développer ce fil de protection, parce que c'est essentiel, pas juste au bien-être corporel, mais aussi à l'estime personnelle de manière générale, l'aisance relationnelle, etc. Donc oui, c'est une belle approche.
Oui, puis ça me fait penser aussi, bon, ça ajoute la prochaine question que j'avais pour toi, en fait, quels sont les facteurs qui ont une influence sur notre image corporelle, mais avant de sauter là-dessus, ça me fait penser, l'espèce de filtre aussi qu'on peut avoir, ça me fait penser, bon, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les filtres littéralement qu'on peut voir apparaître, puis surtout pour les jeunes qui ont, c'est ça, une plus grande vulnérabilité, bien, d'être capable de filtrer, entre guillemets, que le filtre qu'on voit sur quelqu'un d'autre n'est pas la représentation nécessairement de la réalité. Donc, ça aussi, j'imagine que c'est toute une sphère par rapport justement là, à la pensée critique ou l'espèce de protection qu'on peut avoir face à certains messages au niveau de l'image corporelle qui va devoir être développée.
Tout à fait. Puis d'ailleurs, ça s'appelle la littératie médiatique. Donc, c'est vraiment, je ne sais pas si ça te dit quelque chose.
Oui.
C'est vraiment des compétences parce que c'est quand même nouveau. Quand on pense à nos jeunes ou aux adolescents actuellement, c'est quand même la première génération qui grandit véritablement avec les réseaux sociaux. Donc, c'est un petit peu des cobayes, là. Nous, je suis un peu plus vieille que toi, mais bon, on est à peu près dans la même tranche.
Oui, oui.
Ça arrive plus tard quand même dans notre vie. On a eu le temps de grandir, de mener une enfance sans téléphone à tout bout de champ, sans Instagram, etc., etc. Mm-hmm. Là, les adolescents, ils grandissent vraiment, vraiment avec ça. Donc, c'est de voir quels effets ça a sur leur développement. Et puis, de leur transmettre, ça va faire partie absolument des outils ou des ressources qu'on va devoir transmettre à nos jeunes, c'est comment naviguer finalement. Ça fait partie de l'environnement, on ne peut pas enlever les réseaux sociaux, on ne peut pas enlever Internet. Comment est-ce que ces jeunes-là peuvent naviguer avec cette réalité-là?
Ah oui, totalement. Là, je pense que c'est des questions importantes qu'on va devoir se poser comme société pour le futur justement des jeunes actuellement qui vont devenir des jeunes adultes et évoluer avec ça en ayant eu, bon, c'est ça, peut-être des expériences à la fois positives ou plus négatives à une période de leur vie qui est tellement charnière. Mais pour justement faire du pont un peu, du pouce là-dessus, quels sont justement les différents facteurs qui vont avoir une influence sur l'image corporelle? Puis là, ça met un peu la puce à l'oreille, t'as nommé différentes dimensions. Mm-hmm. Donc, il y a différentes choses qui doivent avoir un impact sur chacune de ces dimensions-là, j'imagine.
Oui, bien, il y en a énormément, mais tu sais, on peut les catégoriser peut-être en 7-8 grands points. À prime abord, évidemment, il y a les facteurs biologiques héréditaires, dans la mesure où notre apparence physique est déterminée par un patrimoine génétique et notre apparence physique va avoir nécessairement un impact sur notre image corporelle. De même que toute la notion de santé, tu sais, est-ce qu'une personne vit ou a vécu avec des problèmes de santé, etc., etc., bien, sa santé, ça fait aussi partie de son image corporelle. Hein, est-ce qu'elle va avoir l'impression que son corps est fiable ou pas, solide ou pas, ou plutôt malade, vulnérable?
C'est tellement intéressant parce que ça me fait penser, tu sais, tantôt quand tu disais justement que l'image corporelle, des fois, on va juste penser à l'apparence, mais qu'il y a tout l'aspect justement de, ben, est-ce que notre corps est capable de bien remplir ses fonctions biologiques, de nous permettre de survivre en premier lieu, de faire les actions qu'ils sont capables de faire. Donc, si je suis pas capable de me déplacer adéquatement pour aller faire mes commissions, ben c'est comme c'est justement le corps qui est peut-être pas capable de remplir quelque chose. Donc, même si j'ai, entre guillemets, les plus belles jambes du monde qui répondent aux standards de beauté, ben c'est certain que ça va avoir une influence. C'est vraiment intéressant cet aspect-là.
Tout à fait. Et je pense à une femme que j'ai accompagnée quelque temps qui était tout à fait en bonne santé, qui avait une bonne hygiène de vie, elle menait une belle vie, mais selon ce qui est attendu pour une personne, etc. Mais elle avait cette impression-là d'avoir l'air malade. Et son complexe physique, c'est avoir l'air malade. Donc oui, on n'en tient pas nécessairement compte, mais ça fait partie quand même de l'expérience qu'on a de notre corps. Puis je pense à une autre personne qui souffre de douleurs chroniques. Ben, elle savait jamais. Il y a des journées où je me sens bien, qu'elle me disait, j'arrive à marcher, faire ma journée, puis il y a d'autres journées, tout d'un coup, ça me prend, puis je sais que c'est une journée où je ne pourrais rien faire. Hein. Puis ça peut amener la personne à éprouver quand même de la frustration, de la colère, du ressentiment, de l'impuissance à l'égard de son corps. Donc oui, hein, pour résumer, il y a déjà en partant, il y a des facteurs qui vont être génétiques, héréditaires, biologiques finalement, qui vont vraiment influencer l'expérience qu'on a de notre corps.
J'imagine aussi s'il y a déjà bon, quelque chose au niveau de la santé ou de l'aspect fonctionnel du corps qui est un peu défaillant, est-ce que ça peut placer les gens à être plus vulnérables, justement, être bon, davantage portés à regarder au niveau de leur apparence, aller chercher justement essayer de compenser un peu par les atouts physiques au niveau de l'apparence qu'ils pourraient avoir au lieu de bon, miser sur ce que leur corps leur permet de faire? Je ne sais pas si ma question est claire.
Oui, je comprends ce que tu veux dire. Le réflexe de la personne va être de compenser. Bon, mais si tel aspect de mon image corporelle est décevant ou ne correspond pas à mes attentes, je vais peut-être miser sur autre chose. J'ai envie de te dire, personnellement, pour ce qui est de la santé ou de... J'ai pas vu ce déplacement-là vers un autre facteur. Par contre, dans d'autres contextes, ça peut tout à fait se produire. C'est notamment ce que je peux voir vraiment très, très souvent comme déplacement, c'est des personnes qui vont avoir l'impression, après, c'est pas tout à fait la même chose, mais comme compensation, par exemple, ça va être des personnes qui ne se sentent pas en sécurité en relation, ne sentent pas qu'elles sont suffisamment bien comme personnes ou aimables comme personnes pour qu'on les aime et qu'on ait envie de rester auprès d'elles. Et ça, souvent, je vais le voir, hein, cette espèce de déplacement-là vers l'apparence physique. Hein? Ou le fait de miser énormément sur son apparence physique, le fait de veiller à être très belle, très attirante, très sexy en tout temps, va être comme une forme de protection. Hein? Puis elles peuvent se dire inconsciemment, alors il va tomber amoureux de moi, ou alors il voudra jamais me quitter, etc., etc. Hein? Donc oui, il existe certaines compensations, là, mais je ne l'ai pas encore vu. Je ne l'ai pas encore vu pour ce qui est de la santé.
Oui, c'est intéressant. Donc là, tu as nommé un premier facteur qui est
Oui.
bon, tout ce qui est le patrimoine génétique, l'aspect plus biologique.
Tout à fait.
Quels sont?
Tout à fait. Le prochain va être au niveau relationnel, puis ça, c'en est un des plus importants, un des plus déterminants. Parce que, bon, ben écoute, la famille dans laquelle on grandit, on se développe, va avoir un impact énorme sur le regard qu'on porte sur soi, sur notre corps. Ça va avoir un impact énorme aussi sur l'importance qu'on accorde à la beauté physique, hein. Il y a des familles où j'entends souvent des femmes me dire, ben moi, ma mère, mon père m'en parlaient jamais, puis c'est pas important pour moi. Alors que dans d'autres familles, hein, on voit que la maman, le papa entretenaient énormément leur apparence physique, complimentaient beaucoup l'apparence physique des enfants. Puis bon, bien, ils ont compris que l'apparence, ouais, être belle, c'est joli. Puis ils vont avoir beaucoup de feedback, hein, positif ou négatif, peu importe, au sujet ou de leur apparence physique. Ça va aussi façonner le regard qu'elles portent sur leur apparence physique. Puis après, ben, il y a toutes les expériences relationnelles qui vont se passer tout au cours de la vie, hein. Donc, à l'école, les premières expériences amoureuses, dans le contexte du travail. Et ce qu'on va chercher ici, là, on va porter notre attention, qu'on veut comprendre, hein, comment est-ce que ça a pu impacter le rapport ou l'image corporelle de la personne, c'est d'une part l'importance qu'il accordait à l'apparence physique, comme je te disais un petit peu plus tôt. Et d'une deuxième part, et j'ai envie de dire, c'est l'un des plus importants, c'est est-ce que la personne s'est sentie aimée, acceptée avec son corps, tel qu'il est. Et c'est un des plus grands facteurs de protection quand on évolue dans une famille, quand on évolue auprès de pères qui nous acceptent avec ou sans acné, avec ou sans petit ventre mou. On a comme cette confirmation de cette sécurité-là qu'on est des personnes, hein, dignes d'être aimées et que notre apparence physique n'en fait pas obstacle finalement.
Et non conditionnellement à « je vais être aimée si je garde un certain poids, je vais être aimée si ma peau est complètement lisse, etc. »
Exactement, exactement. Puis tu sais, on peut avoir l'impression que les jeunes, hein, les enfants, les adolescentes ou les jeunes adultes qui sont encensés pour leur beauté doivent avoir une super image corporelle, hein, vraiment solide, vraiment positive, mais pas nécessairement. Parce que le fait d'être encensé pour son apparence physique, ben, ça donne l'impression que c'est une qualité importante, c'est un aspect important de toi. On a des attentes à cet égard-là. Hein, puis au moins cette impression-là, cette confiance d'amour inconditionnel, hein, de peu importe comment tu es, tu vas être aimé, tu vois. Donc, c'est une petite nuance, je pense, qui est importante ici à rappeler. Puis après, si on continue pour les prochains facteurs, ben il y a médias, société, médias, évidemment, puis c'en est un gros, puis je pense que c'est un énorme, cheval de bataille. Je pense qu'on va, comme on se disait un peu plus tôt, ça fait partie de la réalité, mais ça bousille énormément l'image corporelle, autant des hommes, des femmes. On va avoir à apprendre à naviguer avec ces messages de société. Et je pense qu'on va avoir aussi à porter nos culottes à un moment donné puis mettre sur place des réglementations beaucoup plus strictes pour protéger la société. Parce que, à mon sens, c'est vraiment un problème de santé publique, finalement, là, l'image corporelle, le bien-être corporel, etc.
C'est un facteur par rapport peut-être au niveau de la génétique, des relations qui sont assez... mais pas nécessairement stable, mais je veux dire, bon, ce sont des facteurs qui vont avoir une influence sur l'image corporelle, alors que média société va être, on dirait, beaucoup plus dynamique, changer selon l'époque, les cultures aussi, j'imagine, dans la littérature scientifique, est-ce qu'il y a des différences justement au niveau de la place qu'occupe l'image corporelle dans la vie d'une personne, selon où on se trouve sur le globe?
Tout à fait, bien tout à fait. Là, tu ouvres la voie pour un des prochains facteurs, c'est aussi les facteurs culturels. Mais oui, tu sais, autant on peut dire là, les facteurs biologiques, c'est ça qui est ça, on est plutôt limité en termes d'impact. Mais au niveau de la société, oui, il y a un impact, mais c'est comme faire bouger un gros paquebot. Hein, il y a quand même, il y a des gros acteurs qui peuvent faire obstacle à ces changements-là parfois, où il y a certains changements, ça va prendre plusieurs années pour pouvoir enfin les mettre en place. Mais après, il faut être optimiste. Je pense que les gens sont de plus en plus sensibilisés, mobilisés aussi, ça va venir. Mais mettons qu'on aimerait avoir plus d'impact et un impact plus rapide là, sur ces facteurs-là. Si on continue... Est-ce qu'il y en a plein encore?
Oui, vas-y. Ouais. Je me prends des petites notes mentales parce que ça m'ouvre de différentes questions pour chacun, là, mais continue, je trouve que c'est super pertinent puis très bénéfique pour le reste de la discussion.
Okay. Pour ce qui est des facteurs culturels, oui, ça fait vraiment partie, là, ça va vraiment avoir un impact sur la relation que la personne a avec son corps, autant en termes d'importance accordée à la beauté que de standards de beauté. Donc, par exemple, traditionnellement, dans la culture africaine, les rondeurs vont être beaucoup plus valorisées que les silhouettes minces. Après, ce qu'on observe quand on parle avec des personnes afro-américaines ou quand même c'est documenté dans la littérature, c'est que même les standards africains commencent à s'occidentaliser. Et c'est ça qui est dommage parce que la beauté du monde, la beauté de l'humanité, c'est la diversité. Dans le monde occidental, il y a un modèle de beauté unique et c'est dommage. Et là, on se rend compte que même dans des cultures à l'autre bout du monde, leur définition de la beauté est déjà en train de changer pour s'uniformiser finalement. Oui, je pense qu'il y a quelque temps, on pouvait dire qu'il y avait un avantage pour la communauté afro-américaine parce que les rondeurs sont plus valorisées, puis c'est moins vrai qu'il y a 15 ans, par exemple.
Oui, puis ça ramène, là, pis ça, tu pourras probablement en reparler plus tard, mais ça ramène l'importance d'avoir justement une diversité dans la représentation des différents corps, des différents visages qu'on va voir dans les médias, dans les films et tout ça pour qu'on soit capable de se reconnaître puis de voir que justement le tous les corps, tous les types d'apparence sont beaux puis ils méritent d'être là.
Oui, tout à fait. Puis, tu sais, quand tu me dis ça, ça me fait penser, tu sais, au début, avec l'avènement des médias sociaux, il y avait quand même cette espèce d'espoir. Parce que jusqu'à présent, les images qu'on voyait dans les médias qui circulaient, c'était les magazines, c'était les émissions, puis c'était toujours des actrices, des mannequins qu'on voyait. Puis au début de l'avènement des réseaux sociaux, on s'est même dit « Yes, youpi, enfin, ça va être des personnes normales qui va, tu sais, auprès de qui on va se reconnaître. » Et c'est pas nécessairement ça qui s'est produit. Mais tranquillement, oui, il y a clairement ce mouvement-là vers une meilleure diversité corporelle. Puis il y a des lois qui sont en train de se mettre en place un peu partout dans le monde pour défendre cette diversité corporelle-là.
Mm-hmm. Puis, est-ce que tu aurais des exemples d'endroits dans le monde où il y a des lois? Parce que, disons, au Québec, je connais pas exactement bon, toutes les lois qui existent là-dessus, mais je crois pas qu'il y en ait, toi, en France ou en Europe ou dans d'autres pays du monde. Qu'est-ce qu'il y a présentement en termes de réglementation?
Je sais qu'en Italie, par exemple, loi qui va imposer aux compagnies ou aux publicités d'utiliser des mannequins ou des modèles ou des acteurs qui représentent une belle diversité corporelle, par exemple. Après, il y a plusieurs initiatives qui ont été proposées dans différents pays qui ont été refusées ou partiellement acceptées seulement. L'Italie, c'est l'exemple le plus chouette que j'ai vu. Et ça nous prouve aussi que, bon, écoute, si c'est possible, en Italie, pays où l'apparence physique et la beauté de la femme est quand même... Moi, je pense que tu es allée en Italie aussi dernièrement.
Ben oui. C'est pour ça que je suis surprise que l'Italie ressorte, mais c'est encourageant quand même justement de voir qu'un pays pour lequel l'apparence semble quand même centrale pour les femmes soit avant-gardiste là-dessus.
Tout à fait. Donc, c'est possible en Italie, on pourrait imaginer que ce sera possible au Québec.
Mais oui, tout à fait. Super. Ouais. Donc là, j'ai comme posé des questions qui ont peut-être fait un petit peu dévier les différents facteurs qui vont avoir une influence sur l'image corporelle, mais bon, on est passé autant de ce qui est biologique, patrimoine génétique, les relations, les médias, société, les facteurs culturels, puis est-ce qu'il y en a d'autres?
Il y en a deux derniers. Il y a tout ce qui relève de l'éducation. Et puis le fait de grandir, par exemple, dans un milieu féministe ou de grandir avec un modèle qui représente bien les valeurs féministes, ça va être connu comme étant un facteur de protection, par exemple. Alors que si on grandit dans un environnement où la représentation de la femme n'est pas très agréable ou positive, ça va avoir un effet inverse aussi. Puis finalement, il y a les facteurs spirituels. Puis là, on n'est pas juste dans religieux, mais aussi peut-être plus dans le sens de la vie. Hein? Moi, la vie, ça sert à... Je veux rayonner autour de moi, à faire du bien, je veux être heureuse. Ben, quand tu embrasses cette philosophie-là ou cette spiritualité-là, ça devient peut-être secondaire, hein? Toutes les préoccupations corporelles. Puis après, on a vu que des personnes qui sont de confession chrétienne ou bouddhiste vont aussi avoir un rapport vraiment particulier à leur corps. Hein. Le corps va être un temple ou un cadeau de Dieu. C'est « Dieu m'a conçu de cette façon-là. Alors, c'est pas une erreur, c'est pas un défaut. Je vais honorer ce cadeau-là, etc., etc. »
Non, c'est vraiment intéressant, cette espèce de facteur de protection-là. Bon, la religion peut avoir des moins bons côtés, mais pour ça, c'est quand même intéressant de voir justement cet aspect de « bon, ben c'est un cadeau que j'ai reçu, je dois en prendre soin, mon corps est comme il devrait être », puis c'est vraiment intéressant cet aspect-là.
Oui, puis on l'oublie souvent, on néglige souvent, mais il est quand même reconnu pour faire une très, très belle différence auprès des personnes qui ont ce facteur de protection-là.
Oui, donc on a justement beaucoup de facteurs qui vont avoir une influence sur l'image corporelle. Puis là, je vais poser une grande question, mais qu'on pourra découper. Mais quelles sont ensuite les différentes interventions qui peuvent être faites? Là, je vais la poser dans de deux volets, tant d'un point de vue individuel que sociétal, pour... venir avoir une influence positive sur ces différents facteurs-là qui vont jouer sur l'image corporelle. Donc, individuel, je pense que tu vas pouvoir commenter amplement de ta pratique comme clinicienne, mais j'ai envie qu'on ouvre la réflexion aussi de façon sociétale. Je pense qu'on a tous on peut tous être un acteur ou une actrice de changement positif de ce côté-là. Donc, je pense que ça va valoir la peine de creuser ce côté-là. Mais d'abord, d'un point de vue individuel, qu'est-ce qu'on peut faire pour venir intervenir de façon positive sur toutes ces sphères-là?
Beaucoup de choses, franchement. Puis je pense que j'adore qu'on pose cette question-là parce que je pense que quand on souffre d'un malaise avec notre corps, on a l'impression d'être impuissant ou qu'il n'y a pas grand-chose à faire ou qu'une des rares voies qui s'offre à nous, c'est de corriger notre apparence physique. Hein, donc souvent, ce que j'entends, c'est cette espèce de notion d'impuissance, hein, ou de « j'ai pas beaucoup d'options devant moi ». c'est sûr que, tu sais, de manière, en tant que clinicienne, une des premières choses que je vais explorer avec la personne, c'est le sens que prend ses préoccupations corporelles. Qu'est-ce que ça signifie pour elle? Parce que chaque personne, tu sais, deux personnes peuvent être mal dans leur corps, avoir le même complexe physique, mais ça n'aura pas le même sens pour l'une et pour l'autre, ça n'aura pas la même origine ou les mêmes répercussions sur sa vie, sur leur vie respective. Donc, de comprendre, tu sais, d'où ça vient et pourquoi c'est comme ça. Tu sais, si on a l'impression, un peu comme on disait plus tôt, que ça part d'un sentiment d'insécurité relationnelle, mais ça vaut la peine de se pencher ou de reconnaître que l'apparence physique est une distraction. Le problème n'est pas les défauts que tu perçois sur ton apparence physique. Le problème, c'est que hein, t'as appris à te méfier des autres, t'as appris à craindre hein, le rejet de l'autre, t'as appris à être hyper vigilante en relation. Hein, puis, ben, peut-être qu'on met de côté pendant un petit instant les préoccupations corporelles pour développer une meilleure aisance avec les autres en société ou apprendre à mettre ses limites ou rencontrer des personnes auprès de qui on se sent mieux. Pour d'autres personnes, hein, puis des fois c'est les deux, mais pour d'autres personnes, ça va être vraiment une question d'estime personnelle. Donc, il y a cette impression-là d'être une personne médiocre, hein, qui est pas assez bien, pas assez intéressante, pas assez douée, etc., etc. Hein, puis l'apparence physique est comme une extension hein, ou une manifestation, ou plutôt les préoccupations corporelles vont être une manifestation hein, d'une estime personnelle fragile. Donc, tu sais, là, ça va être intéressant aussi de voir hein, que c'est peut-être pas une question d'apparence physique, de beauté physique, mais d'estime personnelle. Est-ce qu'on peut mettre l'apparence hein, de côté pour se concentrer sur la véritable grande blessure, finalement.
Oui, donc de ce que j'entends, c'est important d'aller creuser un peu parce qu'il y a une problématique au niveau de notre image corporelle peut en fait être le symptôme de quelque chose qui est plus profond auquel il est important. C'est important d'aller s'intéresser si on veut vraiment adresser le problème à la source.
Tout à fait. Puis c'est que tant et si longtemps qu'une personne est convaincue que son apparence physique est son meilleur moyen de se sentir ou d'être en sécurité en relation, il n'y a pas grand-chose qui va pouvoir bouger. Tu comprends? Elle ne sera pas prête à mettre une distance avec son apparence physique, elle ne sera pas prête à réévaluer l'importance de la minceur, elle ne sera pas prête à apporter des grands changements parce que c'est trop insécurisant pour elle. Hein? Pour elle, elle a besoin hein, d'avoir ou de présenter son apparence physique d'une certaine façon pour être en sécurité. Pour être en sécurité avec les gens ou pour hein, avoir de la valeur, garder sa valeur. Donc, tu sais, on va vraiment se pencher sur l'origine, comprendre l'origine, la nommer, pour faciliter le travail subséquent. Sinon, il y aura une résistance. Sinon, ce sera trop menaçant pour la personne. Après, c'est certain que c'est drôle parce que quand on, en tant qu'être humain, on aime régler des problèmes. Puis s'il y a quelque chose de travers, s'il y a quelque chose qui cloche, s'il y a quelque chose de pas assez bien, on va vraiment s'ostiner à réparer le problème. Et donc, on peut avoir l'impression que, en général, les personnes, quand elles sont moins bien dans leur apparence physique, elles vont avoir tendance à croire que, ben, en misant plus sur l'apparence physique, en soignant mieux leur apparence physique, en faisant plus d'exercices, en s'alimentant mieux, en s'habillant mieux, hein, elles vont se sentir mieux dans leur corps. Alors que souvent, ce qu'on veut faire, c'est le mouvement inverse. C'est que l'apparence physique vient prendre trop de place dans la représentation qu'elle a d'elle-même. Hein? Donc, ça se fait au détriment de ses autres qualités, ses autres succès, ses autres compétences. Hein? Puis, ça va prendre trop de place aussi dans la relation à l'autre. Donc, on vient aussi diminuer l'importance de l'apparence physique pour hein, qu'elle apprenne à mieux se connaître, à mieux apprécier qui elle est, à se découvrir autrement que par le prisme de l'apparence physique.
Oui, puis ça me fait penser à un exercice que certaines collègues nutritionnistes ont déjà discuté, l'exercice des pointes de la tarte, là, donc de venir justement identifier, bon, ben la place que j'accorde à mon poids, à bien manger, quel pourcentage de cette fameuse tarte-là ça va prendre par rapport à des activités sociales, le travail ou d'autres sphères de la vie. Puis je trouve ça intéressant justement que le réflexe, parfois, ça peut être, bon, ben je vais me concentrer encore plus là-dessus pour essayer de l'améliorer, alors qu'au final, ce qu'il faudrait être capable de faire, c'est diminuer l'importance qu'on accorde à cette sphère-là.
Exactement. Ben, super parallèle. Puis l'exercice que tu décris, c'est d'ailleurs un exercice que j'utilise là, pour souligner l'importance là, de peut-être pas miser autant sur l'apparence physique, mais miser hein, ouais. et investir autre chose. Puis après, il y a un paquet d'approches, puis c'est ça qui est hyper chouette avec un travail sur l'image corporelle. Il y a un paquet d'interventions, de stratégies, de compétences qu'on va cultiver avec la personne. Il y a ce qu'on appelle, il y a le fil de protection déjà, ce qu'on a nommé
oui.
un peu plus tôt, hein, donc de cultiver ouais, son fil de protection.
Puis ça, j'aimerais qu'on en parle un peu plus. Je le trouve oui. vraiment intéressant. Puis j'ai l'impression que des fois, c'est aussi, je pense qu'il est très important parce que des fois, je crois qu'on peut se faire influencer inconsciemment ou on ne se rend pas compte que les messages qu'on reçoit de l'extérieur vont venir nous affecter. C'est pas comme, bon, disons mm-hmm. qu'un parent nous a dit toute notre vie qu'on mm-hmm. était trop gros, trop grosse, pas assez belle. C'est assez flagrant. On peut voir oui. d'où vient le problème. Mais ces messages-là plus insidieux peuvent avoir, j'imagine, un impact qui est tout aussi important. Mais on ne va pas s'en rendre compte. Donc, de cultiver ce filtre-là, ça devient encore plus important. Donc, parlons-en.
Tout à fait. Ben, ça revient à cette notion-là de micro-agression. Oui, il existe des grosses agressions, hein? Il existe des grosses violences, comme notre parent qui nous dit tout au long de notre enfance, de notre adolescence, qu'on est trop grosse puis qu'on a l'air de je sais pas quoi. C'est hyper violent, puis on le sait que ça nous a blessés en général. Mais après, il ne faut pas sous-estimer que notre environnement est parsemé de micro-agressions. Puis en fait, c'est difficile d'aller dans un endroit où il n'y a pas une micro-agression. Tu vas à l'épicerie et je te vois
réagir. T'as vu mes yeux qui ont roulé.
Oui, il y en a des microagressions à l'épicerie, hein, tous les produits diète. Moi, j'habite en France, je pense que c'est encore pire. Il y a une rangée de tisane, brûle-graisse, ventre plat, minceur. Je veux dire, tous les produits diététiques, il y en a énormément. Donc, veux pas, c'est pas écrit sur la boîte « t'es trop grosse, t'es moche, ça n'a pas de bon sens », mais quand on voit ces boîtes-là, on comprend tout à fait que ben il y a une attente sociétale, puis que ben je devrais faire quelque chose, puis que peut-être je suis pas assez bien comme ça. Tu vas à la pharmacie, c'est épouvantable aussi en pharmacie. Mais t'allais dire quelque chose que...
Oui, ben je... J'ai eu ce qui m'est venu à l'esprit quand tu parlais de l'épicerie. Une fois, je cherchais un cocktail qui allait être bon, plus léger, plus faible en alcool pour l'été parce qu'il fait chaud. Puis je pense que j'étais tombée sur quelque chose de produit, ça s'appelait Svelte. Puis je me suis dit, franchement, là, je veux juste un cocktail léger qui va être agréable pour passer un bon moment avec mes amis sans que ce soit trop, qu'il y ait trop d'alcool dedans. Laissez donc faire pourquoi est-ce qu'il faudrait que je consomme ça? En tout cas, bref, ça m'a juste à cause de ça, on dirait que je me suis rebellée. Je me suis dit, j'achète pas ce produit-là, c'est ridicule. Mais oui. Puis ça, il y a des exemples à la tonne, là. Je pense que j'ai l'œil d'une nutritionniste qui est très sévère pour ces trucs-là. Mais oui, non, effectivement, donc on va faire son épicerie tout bonnement. Puis même quelqu'un qui serait pas, qui passe pas dans cette rangée-là nécessairement va quand même être confronté indirectement à tous ces produits-là qui envoient le message que « Hey, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec ton corps ».
Oui, tout à fait. Puis écoute, ton œil de nutritionniste sévère dont tu parles, c'est un fil de protection parce que tu repères les micro-menaces. Puis c'est pas juste que tu les vois. Il y a quelque chose qui se passe en toi. Hein? Nécessairement, il y a cette envie-là, il y a comme un regard critique et il y a un mouvement de rejet, hein, de repousser. Tu as reposé cette fameuse boisson svelte, quel nom horrible d'ailleurs. Donc, il y a un fil de protection ici. Tu l'as vu, tu l'as repéré et tu l'as rejeté. Donc, c'est exactement, tu sais, quand on parle, c'est quoi exactement un fil de protection? Ça peut tout à fait prendre cette forme-ci. Puis tu vois, là, on parle d'épicerie, mais à la pharmacie, les crèmes anti-cellulite, les teintures à cheveux pour couvrir les cheveux blancs, l'autobronzant, je veux dire, il y a tellement de produits d'affiches qui vont aussi nous rappeler et perpétuer ces standards-là. Puis après, il y a toutes les conversations qu'on entend, il y a les affiches avec, tu te demandes, est-ce qu'elle est majeure, le mannequin, ou elle n'est pas majeure, sûrement pas, parce qu'elles ont l'air hyper, hyper jeunes. Donc, tu sais, il y a plein de micro-agressions. Puis la première étape, c'est peut-être de juste reconnaître que ça fait partie de notre vie. Puis pas pour virer folle puis être frustrée ou apeurée, mais juste être consciente que, ça fait partie de mon environnement direct. J'y suis exposée à chaque jour, finalement, de le reconnaître quand ça se présente. Hein? Puis peut-être de commencer à voir quel effet ça a sur moi. Est-ce que ça change le regard que je porte sur moi? Est-ce que ça change comment j'ai envie de manger ce soir? Est-ce que ça change mon humeur? Je me sens un peu plus déprimée, etc., etc. Puis après, dans ce filtre-là, il y a plein de stratégies. Hein, il y a plein de compétences. C'est pas unidimensionnel, il y a quelque chose de très dynamique et riche ici. Donc, toi, dans ton exemple de la boisson svelte, c'est ton jugement critique que tu as utilisé. Hein? Puis il y a ce petit côté rebelle qui t'a donné envie de dire hey, toi, tu m'en vas pas. Hein? Tu l'as reposé.
Ah, puis je peux partir sur des grands chevaux. Des fois, je vais écrire à la compagnie. Puis, oh non, des fois, là, je peux partir sur mes grands chevaux assez vite là-dessus.
Mais je pense que c'est important de le faire. Hein? Ça revient à ce qu'on disait un peu plus tôt. Oui, c'est dans la société. C'est difficile de faire bouger cette société-là. Il y a quand même des gros chapeaux au milieu de tout ça. Mais plus on est nombreuses à le dénoncer, plus ça a un impact sur les ventes de ces entreprises-là, plus ça
Oui,
va changer malheureusement. Là. Fait que c'est
tout à
ça.
fait. Puis
Voilà.
au niveau aussi du filtre, je pense qu'on parlait plutôt de la littératie médiatique, puisque les réseaux sociaux, c'est quand même, c'est récent, là, je veux dire, ça va faire à peine une quinzaine d'années, tout au plus. Au niveau de la littérature scientifique, des études qui se font sur le sujet, ça aussi, bon, c'est quelque chose qui évolue vite, puis ce qu'on aurait peut-être trouvé comme intervention pertinente pour Facebook est peut-être plus tant d'actualité aujourd'hui parce que le problème est rendu peut-être plus sur TikTok ou sur Instagram avec les filtres qui ont évolué dans le temps, là. Je me souviens, moi, quand j'ai commencé à utiliser ces applications-là, je veux dire, les filtres, c'était que, bon, je pouvais avoir des petites oreilles de lapin, puis c'était flagrant que j'avais un filtre, mais là, aujourd'hui, on peut regarder nos réseaux sociaux, puis ne pas du tout être conscient que la personne a un filtre super subtil, mais qui va quand même venir, bon, lisser la peau, rehausser le regard, etc., là. Donc, ça, comment justement la littérature scientifique puis les interventions au niveau de la littératie médiatique ont évolué dans le temps?
Écoute, t'as raison, tu sais, c'est partout, puis c'est hyper insidieux. C'est hyper insidieux. Avant, c'était flagrant, puis là, c'est de moins en moins apparent, puis moins c'est évident qu'il y a un filtre, plus ça va être dommageable. Tu sais, quand oui, un filtre, le nez est affiné, les lèvres sont bombées, il y a des grands yeux de biche, si ça a l'air très, très truqué, trafiqué, ça va avoir moins d'impact. Mais là, ça a l'air de plus en plus réaliste et ça va être beaucoup plus dommageable au niveau de l'image corporelle. Qu'est-ce qu'on sait? En fait, je pense qu'il n'y a pas de grande surprise à savoir que c'est hyper dommageable, pour autant pour les personnes qui utilisent les filtres que pour les personnes qui voient ces visages retouchés. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place ou qui sont discutées un peu pour protéger la population, surtout les jeunes, à l'exposition à ces filtres-là. Puis je lisais une étude justement la semaine dernière, je trouvais tellement intéressante. T'sais. Là, on se bat là, bec et ongles pour qu'il y ait une petite mention en haut de l'image Instagram qu'un filtre a été utilisé. Puis on essaie, puis on aimerait donc bien croire que ça fait une différence, que ça a un impact. Mais en fait, tu sais, quand il y a un avertissement, mettons, on commence un film ou qu'on est sur la route puis qu'il y a des travaux ou un accident, quand il y a un avertissement de danger, en général, c'est pas esthétique, c'est pas discret. En général, c'est comment? C'est jaune, c'est rouge, c'est pas beau, ça flash. Pour susciter l'attention, pour éveiller un peu la vigilance. Alors que comment on conçoit les petites, comment on dit ça, c'est pas déclaration pour afficher, est-ce que tu vois ce que je veux dire?
Les trigger warnings, je sens.
Quand on veut nommer qu'un filtre est utilisé sur une image sur Instagram,
Oh, j'ai le mot anglais disclaimer. Je
Oui,
m'excuse les anglicismes de
disclaimer,
travailler dans les deux langues. Mais
c'est ça.
oui.
C'est ça, le disclaimer, j'aimerais le dire en français, mais tu sais, le disclaimer, là, il est lisse, il est beau, il se fond à l'image, on le voit même plus, hein, il fait pas peur. Il fait pas
Non.
peur, il réveille pas, donc ça marche pas. Ça a été vraiment démontré, il y a des études qui ont été faites sur est-ce qu'une image retouchée avec ou sans disclaimer, ça va vraiment changer l'expérience de la personne qui voit cette image-là, et la réponse, c'est non, pour plusieurs raisons. Parce que tu as beau lire un disclaimer, ce que tu vois est tellement réaliste que tu vas beaucoup plus t'attarder à ce que tu vois, hein, ce que ton l'image que tu enregistres, qu'à ce que tu dois lire. Hein. Ce que tu lis, la présence d'un fil, c'est beaucoup plus abstrait. Et en
Ah,
plus,
c'est
c'est
vrai.
présenté d'une manière comme si c'était une mode cool, là, t'as tel filtre, etc. Tu dirais avec des petites étoiles autour. Donc, tu sais, ce qui est en train d'être discuté, c'est est-ce qu'on ne voudrait pas mettre des disclaimers qui sont un peu plus affichés comme des véritables disclaimers, hein, jaunes, pas beaux, au milieu de l'image. Et puis, est-ce que ça, ce n'est pas plus efficace finalement?
Ouais. Donc, c'est vraiment intéressant, puis tu sais, je veux souligner, ça c'est mon petit cheval de bataille dans la vie, là, mais que des fois, on peut penser que bon, ça semble être une bonne idée, une bonne intervention pour venir améliorer une situation, mais ça doit passer au travers la démarche scientifique pour qu'on soit capable de voir est-ce que c'est réellement efficace, est-ce que ça peut pas au contraire avoir un autre effet pervers auquel on n'aurait pas pensé, puis... Tu sais, puis peut-être que c'était mentionné dans l'étude, mais on dirait, je me dis, si moi je vois une image, puis il y a le petit truc de filtre, puis que là, je suis comme, oh mon Dieu, mais c'est tellement réaliste, j'ai l'impression que je passerais plus de temps à analyser l'image pour essayer de voir, bon, ben où est le filtre et tout ça, puis ça va peut-être m'amener après à avoir davantage de comportements de vérification corporelle, au lieu que, ben au final, j'aurais juste passé l'image, il n'y aurait pas eu de mention, puis je m'y serais pas attardée plus qu'il faut.
Non, c'est intéressant ça, puis je ne l'ai pas vu dans cette étude-là, mais effectivement, est-ce que... Puis après, il y a nos intentions, nos hypothèses de recherche, puis après, il y a toujours des variables qu'on peut sous-estimer ou négliger complètement. Mm-hmm. Donc, effectivement, je ne sais pas, puis j'ai regardé après notre échange, est-ce que effectivement, même la présence d'un petit disclaimer cute de même, est-ce que ça peut avoir un effet contre-productif même? Donc,
Oui, puis au niveau de la réglementation, ça m'a fait penser, tu l'as partagé dans tes stories sur Instagram il y a quelques semaines, puis ça m'avait jeté à terre que sur Zoom, tu t'étais rendu compte qu'il y avait une fonctionnalité qui avait été activée automatiquement pour venir, je me souviens plus comment c'était appelé, mais comme améliorer l'image, l'apparence du visage, mais il me semble, mon Dieu, pour des applications qui sont si utilisées au quotidien, ça devrait pas. Je veux dire, l'équipe de développement qui a pensé ça, mon Dieu, ça devrait jamais passer puis apparaître. On vient juste empirer le problème.
Mais c'est là que c'est nul, puis je veux pas être amère, mais c'est là qu'on se dit, ben quel est l'objectif d'entreprise comme Zoom? Puis clairement, le but est de faire de l'argent, parce que t'sais, quel est l'intérêt? Parce que tu te dis, c'est quand même, moi, ma première réflexe, c'était, ben, coudonc, c'est professionnel, c'est pas une plateforme de divertissement où on veut s'afficher belle, quoi que ce soit. C'est une plateforme qu'on utilise souvent pour nos rendez-vous professionnels, pour des échanges entre collègues, etc., etc. Donc, pourquoi est-ce que ça existe déjà, cette option-là, embellir l'apparence du visage? Et pourquoi est-ce qu'elle est activée par défaut? Hein, ben on peut se dire, ben moi, quand je utilise Zoom, ben je me sens plus belle, je me sens mieux. Alors que quand je utilise telle plateforme qui lisse pas mon visage, ben on dirait que je me sens plus self-conscious, je me sens moins jolie, je me sens moins à l'aise. Ah, ben je préfère utiliser Zoom. Hein, sans même savoir que, ben parce que en fait, sur Zoom, il y a ce filtre-là par défaut, finalement.
Mm-hmm. Ouais, puis encore une fois, ben ça ramène, on veut que le consommateur ou la consommatrice passe plus de temps sur l'application, soit davantage porté à l'utiliser, donc c'est pas nos intérêts à nous qui sont en jeu, mais bien les intérêts financiers de la compagnie.
Oui, exactement. Puis le fait d'être c'est un peu nul de prendre conscience à quel point il y a quelque chose de moche dans cette société qui veille d'abord et avant tout à faire des sous et qui veille moins sur notre apparence, sur notre bien-être, notre bonheur de manière générale. Mais à partir du moment où tu comprends ça, ça fait partie aussi de ce qu'on appelle le fil de protection. Ça vient vraiment alimenter ce regard critique. Comment tu peux avoir un regard critique si tu n'es pas encore tout à fait sensibilisé autour des enjeux marketing, business, qui se cachent derrière ces services, ces produits-là? Donc, les personnes qui nous écoutent, je vous encourage fortement à lire, à vous pencher sur vraiment toutes les stratégies marketing de vente des compagnies qui nous entourent. Ça aide beaucoup.
Puis pour faire bouger pour avoir des plus grandes actions sociétales, j'ai l'impression que ça demande aussi un travail de réflexion comme société de... Qu'est-ce qu'on va considérer beau? Parce que si, au final, notre vision demeure très centrée sur un modèle de beauté unique, bien pourquoi est-ce qu'on serait porté ensuite à vouloir militer pour qu'il y ait plus de diversité, etc.? Donc, j'ai l'impression que, bon, c'est un travail qui doit se faire des deux côtés, mais que de notre bord aussi, il faut qu'on réfléchisse à nos propres biais par rapport à ça.
Tout à fait. Mais tu sais, je trouve ça intéressant ta question, hein. Comment nous, puis tu sais, si on est tous franches, on évolue tous dans cette même société qui promeut, qui fait la promotion du même standard de beauté, hein, qui est la minceur. Donc, probablement que nous toutes, on a intériorisé que la minceur, c'est plus joli qu'un corps plus gros. Je ne pense pas qu'il... Je pense que oui, il faut remettre en question soi-même d'une manière sincère, authentique, ce qu'on considère être beau, ne serait-ce que pour mieux nous accepter, mais aussi mieux accepter notre projet, notre prochain. Je ne pense pas qu'on a besoin d'être énormément avancé dans ce qu'on considère être beau, parce que ça peut prendre du temps à changer nos propres standards de beauté. Parfait. Ouais. Je ne pense pas que ce soit nécessaire d'être très avancé pour pouvoir quand même se mobiliser d'une manière positive pour le reste de la population. Dans la mesure où, pour moi, de faire la promotion de la diversité corporelle, de prendre la défense des personnes qui subissent la discrimination en lien avec leur poids, leur apparence physique, etc., c'est même pas une question de standard de beauté. Ça, pour moi, ça n'a même rien à voir avec les standards de beauté. C'est beaucoup, beaucoup plus un enjeu de justice sociale.
Oui, vraiment.
Donc, je pourrais tout à fait à la maison trouver que pour être belle, il faut mesurer 5 pieds 3, être blonde, avoir les yeux bleus et, je sais pas moi, être bronzée, tout en étant, en étant inclusive, respectueuse à l'égard des autres personnes.
Hein, oui.
Dans la mesure où tout le monde a sa place dans cette société, tout le monde mérite du respect. Et tout le monde mérite d'être protégé par les citoyens puis par le gouvernement. Donc,
tout à fait.
Peut-être que puis dans un monde idéal, nos standards, nos propres standards de beauté suivent et se diversifient, mais peut-être ne pas se donner le droit d'être militante, hein, si ça résonne avec nos propres valeurs, et se laisser le temps en parallèle d'évoluer d'une manière plus personnelle.
Oui, tout à fait. Puis, on a sauté dans des belles réflexions déjà au niveau de l'aspect sociétal. Puis, ça, quand tu mentionnais au tout début de la discussion que, bon, tu avais un profond désir justement d'aider les autres, puis qu'à un moment donné, tu t'es rendu compte, bon, ben les vingtaines de femmes que je vois présentement, je peux les aider, mais je vais avoir un impact plus grand. Puis, bon, c'est peut-être pas tout, justement les personnes privilégiées qui vont avoir la chance de pouvoir aller consulter. Puis bon, je sais pas en France de quoi ça a l'air, mais au Québec, si on se met sur voir un psychologue au public, on est sur la liste d'attente pendant des mois, voire des années. Donc, puis bon, je sais évidemment que chaque intervention est personnalisée, mais disons qu'un auditeur ou une auditrice qui nous écoute, qui a des enjeux avec son image corporelle, quelles sont des petites actions que cette personne-là pourrait mettre en place ou même pas nécessairement quelqu'un qui a des enjeux avec son image corporelle, mais juste c'est ça, certaines choses qu'on peut faire peut-être au quotidien pour essayer de cultiver positivement les différentes sphères de notre image corporelle.
Mais il y en a beaucoup, puis il y en a un premier qui attire beaucoup l'attention en ce moment, puis c'est ce qu'on appelle en anglais « embodiment », parce que c'est un concept qui a été développé dans le milieu anglo-saxon. En français, ce serait un peu l'incarnation du corps, donc le fait de faire un avec son corps ou d'être un peu... de faire un avec son corps. Parce que quand on est moins bien dans notre corps ou de manière générale, on a l'impression qu'il y a moi et mon corps. Hein. Puis des fois, je l'aime parce qu'il correspond à ce que je veux, puis des fois, j'ai l'impression que c'est un obstacle où j'ai à me battre contre lui. Donc, le fait d'aller chercher ou de vivre des moments où on fait un avec notre corps, ça aide énormément à connecter avec lui, évidemment, à l'apprivoiser, à réapprendre à le connaître et à passer du temps avec lui, voir qu'est-ce qu'il nous apporte, comment on se sent avec lui. Et on peut vivre des moments d'incarnation avec notre corps de plusieurs façons. Le yoga est reconnu pour aider à faire avec notre corps. En autant que le yoga ne soit pas pratiqué dans le but d'être jolie ou d'être élégante ou de réussir parfaitement la figure. Mais tu sais, si on pratique... certaines positions de yoga ou une séance de yoga vraiment où le focus est vraiment porté sur comment je me sens, qu'est-ce que mon corps me permet de faire, vraiment concentré sur cette expérience-là du moment présent, ça peut aider. Les marches en nature, passer du temps dans la nature, ça peut vraiment avoir cet effet-là. Ce qui est intéressant avec la nature, c'est que souvent ça remet les choses en perspective. Donc déjà, dans un premier temps, il y a tous nos sens qui vont être sollicités. On peut vraiment vivre cette espèce de connexion-là avec notre corps, mais ça permet aussi de mettre en perspective, tu sais, tous les messages de la société. Puis on se rend compte que ben, c'est petit dans ce grand univers ou sur cette grande planète Terre. Donc, ça va avoir un effet intéressant. La danse aussi. Notamment le baladi. Puis, tu sais, là, j'ai envie de te renvoyer la balle. Je sais que toi, tu fais du vélo. Tu fais beaucoup de vélo, des longues distances. Est-ce que tu as pu avoir cette espèce d'effet ou d'impression de faire un avec ton corps ou d'incarner ton corps par moment?
Ah oui, non, totalement. Là, puis je pense que j'aime du vélo, c'est le sentiment de liberté, d'être dans la nature. Puis non, il y a vraiment quelque chose, on dirait, qui est très méditatif du vélo qui manque dans le moment présent. Puis depuis cette année, surtout des fois, je roule avec des groupes. Donc, quand on roule en peloton, ben il faut être très vigilant, il faut être très concentré sur bon, où est situé l'autre, signaler le prochain mouvement que je vais faire. Donc, puis pour moi, il y a tout cet aspect aussi de... J'ai fait une très longue randonnée la fin de semaine passée, puis me dire « Wow, mon corps m'a permis de faire ça, m'a permis de vivre cette belle journée-là avec des personnes formidables, de voir un coin de pays que je trouve magnifique. » Donc, c'est un peu les sentiments que ça m'a, que ça m'a éveillé. Puis le point par rapport à la nature me fait penser aussi quand tu disais que... Puis c'est totalement vrai là, que la beauté, c'est dans la diversité. Puis dans la nature, on a cette diversité-là de... Même peut-être à l'automne, bon, on a... au Québec, toutes sortes de belles couleurs, mais même les feuilles un peu plus moches qui sont tombées au sol, ben, dans ce portrait-là, on va les trouver absolument magnifiques. Donc, je pense que la nature a des leçons intéressantes à nous apprendre absolument. De ce côté-là.
Absolument. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Il y a vraiment ce rapport à la beauté qu'on gagnerait tellement à approfondir. Puis, quand on veut faire la paix avec notre corps, veut pas, on n'a pas le choix d'élargir et d'enrichir notre définition de la beauté. Puis il y a un exercice qu'on va faire de temps en temps qu'on appelle la chasse à la beauté. Puis justement, de se promener dans la rue, dans l'allée à son bureau, etc. Et de porter attention, de faire l'effort, de remarquer, de savourer ce qu'il y a de beau, les petites choses de belles, hein, comme la feuille qui est d'automne ou des grandes choses. Ça aide vraiment à Ça nous aide à voir comment, comme tu dis, la beauté, c'est riche. C'est riche, c'est diversifié, puis cette diversité-là fait partie de la beauté. Ça nous exerce aussi à chercher la beauté, hein, plutôt que chercher ce qui ne va pas, chercher le problème, chercher la solution. Et cet exercice-là de chercher la beauté, de se donner le droit de la savourer, hein, parce qu'on peut voir la feuille, puis de continuer tout droit, mais voir la feuille, puis de vraiment embrasser cet instant-là, ça va nous aider à faire la même chose avec nous. Et de la même façon, on peut, une femme qui nous écoute, qui a envie de faire cet exercice-là sur elle-même, ça peut être aussi à la fin de la journée de prendre le temps de voir quelles sont mes petites reconnaissances. Hein? Puis petite, c'est important parce qu'on est attiré vers le grandiose. Hein? J'ai porté mes enfants, j'ai été capable de courir un marathon, mais il y a plein de petites merveilles dans notre corps. Donc, à la fin de la journée, quelles sont tes petites reconnaissances? Ben écoute, j'ai voulu sentir, mes roses, puis il y avait une épine, puis mon œil s'est tout de suite refermé, mais quelque chose de merveilleux dans le fait que ton corps te protège, puis ça se fait qu'il est fiable, qu'il veille sur toi, et ça peut être, j'ai pu sentir l'odeur de cette rose-là, c'est extraordinaire, ça peut être, je me suis sentie belle, j'ai marché dans la rue, puis pendant 3 secondes, je me suis sentie belle. Donc, de s'exercer aussi à voir le beau et le bon chez soi et sur notre corps, ça peut aussi faire beaucoup, beaucoup de bien. Puis après, tu sais, pour compléter, quand tu me dis, ben, qu'est-ce qu'on peut faire à la maison, l'autocompassion est reconnue pour être un facteur de protection extraordinaire, tout comme la méditation, la pleine conscience. Donc, ça peut être aussi de cultiver ou d'investir là, dans ces voies-là.
Oui, puis quelque chose, ça c'est plus personnel, puis bon, peut-être que ça me parle davantage parce que bon, j'ai mon petit cerveau scientifique, là, mais tu sais, dans le cadre de mon doctorat, on se penche beaucoup sur le tissu adipeux, donc le gras qu'on a sur le corps, puis on dirait que j'ai tellement développé une vision différente du gras sur mon corps en travaillant sur ça et en comprenant tous les rôles majeurs que ça a dans mon corps, qu'on dirait que ça m'apporte maintenant une sorte de reconnaissance qui m'a fait changer un peu la perception. Bon, ben avoir du gras sur mes cuisses, je veux dire, c'est la meilleure chose, une des meilleures choses pour ma santé que je pourrais avoir. Donc, c'est ça, on dirait, pour moi, c'est venu satisfaire ce besoin-là intellectuel de mieux comprendre ce que différentes parties de mon corps vont faire pour me garder en santé et me permettre de survivre au quotidien. Puis, bref, j'ai trouvé quand tu parlais de la chasse à la beauté, je pense que je la trouve dans des fonctions métaboliques, biologiques du corps de mon côté.
Oui, puis ça revient à ce qu'on disait tantôt, le fait de se documenter, de se renseigner, de comprendre les choses, ça change énormément, énormément la donne. Puis on apprend à avoir de l'affection, même pour des parties de notre corps qu'on aurait estimées moins jolies. Petite tranche de vie, moi je commence à voir ma coupe de cheveux blancs augmente vraiment en flèche vers le haut depuis quelques temps. Puis au début, ben c'était comme saisissant parce que c'est un rappel que bon, ben le temps passe peut-être plus vite que ce que je pense. Mm-hmm. Et puis ben par choix, j'ai choisi de ne pas me teindre les cheveux. Et hier, je voyais un cheveu blanc, un beau long cheveu blanc. Puis j'avais presque de l'affection pour ce cheveu-là. Je me disais, tu sais, toi, t'es encore là, t'as encore ta raison d'être là, t'as encore le droit d'être là, puis t'as été brun, t'as été scintillant, t'as une belle couleur très longtemps, merci finalement. Donc on apprend vraiment, quand on fait ce travail sur notre image corporelle, on apprend vraiment à accueillir autrement, avec compassion, mm-hmm. avec reconnaissance, avec amour, différentes parties de notre corps qu'on n'aurait pas aimé il y a pas si longtemps.
Mm-hmm. Alors, c'est vraiment plein de beaux outils que tu as mentionnés, puis j'espère que c'est ça, les auditeurs, auditrices pourront y trouver leur compte, puis comme tu disais en début d'entrevue, c'est pas un travail qui se fait du jour au lendemain, ça prend du temps, puis je pense que quand tu parlais d'autocompassion, si ça fait 30, 40, 50 ans, je veux dire qu'on subit des micro-agressions, c'est ça, du quotidien par rapport à notre image corporelle, j'imagine qu'il faut avoir de la compassion pour soi, que c'est un travail qui peut prendre beaucoup de temps, mais qui, je crois, vaut totalement la peine d'être fait.
Tout à fait. Oui, c'est un travail qui demande beaucoup de temps. Et après, quand on est bien accompagné ou quand on est bien orienté, il y a quand même des petits progrès qui peuvent se remarquer rapidement. Puis c'est aussi, chasse à la beauté, prend le temps de savourer ces petits progrès-là. Ils vont nous encourager parce que, oui, ça peut être, comme tu dis, une longue démarche. On a besoin de s'encourager en savourant les progrès qu'on arrive à faire.
Mm-hmm. Puis ensuite, là, on a parlé plein de petites choses individuelles qu'on peut faire au quotidien. Disons, d'un point de vue sociétal, j'avais posé, je crois, cette question-là à Karine Gravel quand je l'ai reçue au niveau de l'alimentation intuitive. Disons que je te laissais une baguette magique, puis que tu pouvais changer des grandes choses dans la société. On parlait de réglementation plus tôt. Qu'est-ce que tu ferais, autant de ta perspective comme clinicienne, mais aussi à la lumière des données scientifiques actuelles, qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle plus sociétale pour venir favoriser une image corporelle qui est positive pour la population?
Écoute, j'aimerais tellement avoir cette baguette-là. Là. Je me sens tout emballée tout d'un coup. Je vois pas une chose. Nommons que il y a plein de sortes de discriminations sociales qui sont bannies, qui sont interdites, mais la discrimination liée au poids et l'apparence physique n'est pas illégale au Canada.
C'est tellement vrai, ça. C'est tellement vrai. C'est pas dans la Charte des droits et libertés. Ouais. On dit souvent que la grossophobie puis les préjugés à l'égard du poids, c'est comme la dernière forme de stigmatisation, de harcèlement qui est acceptée socialement.
Oui, tout à fait. Autorisée. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est assez choquant. Donc, on pourrait se dire, tu sais, je regardais justement la charte dernièrement, on n'a pas le droit, tu sais, là où il y a une mention par rapport à l'apparence physique ou au poids, c'est dans un contexte d'embauche. On n'a pas le choix, on n'a pas le droit d'embaucher une personne ou de ne pas embaucher une personne selon son apparence physique, à moins que ça puisse l'empêcher de réaliser le travail. Mais c'est tout. Donc, peut-être la première chose qu'on pourrait faire, c'est de ne pas autoriser ou de ne pas de rendre illégale cette forme de discrimination sociale parce qu'elle est extrêmement, extrêmement violente et extrêmement répandue. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il y a à faire dans les écoles. Hein. Je ne sais pas comment ça se passe actuellement, mais je me rappelle très bien comment ça se passait dans mon temps, il y a 20 ans, puis il y a aussi ce que j'entends de ma clientèle qui était à l'école il n'y a pas si longtemps, puis Les personnes plus grosses sont encore celles qui sont le plus victimes de harcèlement, d'intimidation à l'école. En tant que psychologue, toi en tant que nutritionniste, on les voit dans notre bureau quelques années plus tard et on voit les ravages que ça peut avoir sur eux, sur leur vie. Je pense qu'il doit, c'est pas juste ce serait bien, il y a une grande nécessité de mieux encadrer cette forme d'harcèlement à l'école parce que, en fait, toute forme d'harcèlement est épouvantable, mais il y a probablement un travail de sensibilisation et d'encadrement qui est nécessaire ici. Ça, c'est sûr. On éviterait à bien des personnes de traîner une image corporelle négative, développer un trouble de la conduite alimentaire par la suite. Et après, il y a, si on s'inspire de l'Italie, hein, le fait de réglementer aussi de réglementer, puis je dirais pas juste le poids, mais aussi l'âge. T'sais, on parle du poids, mais c'est pas le seul souci en termes d'apparence physique, d'image corporelle. Il y a l'âge, tu sais. Donc, de réglementer ou de... Oui, l'âge, il faut qu'il y ait une diversité en termes d'âge, en termes d'apparence physique, en termes de capacité physique des modèles, des comédiens qui sont représentés sur la sphère publique, nécessairement.
Puis tu sais, quand tu parlais de pharmacie tantôt, tu sais, tous les produits de beauté, je veux dire, pour les femmes, produits anti-vieillissement, tu sais, anti-rides, puis on dirait que le mot anti-vieillissement, pour moi, est encore plus flagrant parce que c'est comme si là, on tente de résister à un processus de la vie qui est tout simplement normal, puis pour lequel on devrait pas avoir honte, je veux dire, notre véhicule, notre corps, notre maison, je veux dire, tout comme littéralement notre vraie maison dans laquelle on habite, bien, elle va évoluer au fil du temps, puis ouais, il y a vraiment quelque chose qui m'agace dans le anti-vieillissement, ce qu'on va beaucoup voir dans le marketing des cosmétiques.
Je comprends, bien absolument, puis on s'entend, c'est impossible, c'est ridicule, on ne peut pas stopper le temps comme tu dis. Et puis c'est terrible parce que à tous les jours, on est tous en train de vieillir, hein? Donc c'est vraiment, je trouve qu'il y a quelque chose de très violent dans le fait de complexer ou de préoccuper les personnes avec le passage du temps. Ça revient un petit peu à ce qu'on parlait tantôt, hein? On parlait de disclaimer, puis je pense qu'il devrait y avoir beaucoup plus de disclaimer. Pas juste sur l'usage de filtres, mais l'usage de quand il y a une tisane ventre plat, quand il y a des produits slim fast, quand il y a des produits crème anti-rides. Tu sais, un disclaimer de ce produit a une efficacité limitée. Juste d'être exposé ou d'acheter ce produit peut avoir un impact sur ton bien-être corporel, ta santé mentale, etc.
C'est vraiment intéressant pour ça. Puis en nutrition, bon, tout ce qui est les produits santé naturelle aussi, je veux dire, c'est un marché pour lequel la réglementation est très lousse. Puis justement, aussi pour tout ce qui est les produits de beauté, je veux dire, n'importe qui peut écrire cliniquement prouvé sur sa petite crème. Je veux dire, elle n'a jamais nécessairement été étudiée concrètement pour lisser le visage, diminuer l'apparence des rides, donc...
Mais oui, je souris quand je t'écoute parce que le langage marketing des crèmes pour la peau, c'est extraordinaire. Je suis tombée dernièrement sur un lexique, vraiment, je trouve ça hyper intéressant. Donc, il va avoir cette approche culpabilisante, donc ça va être des termes style « défroisse la peau ». Après, il va avoir des termes scientifiques, médicaux, qui vont rappeler un peu le monde de la chirurgie. Donc, injection, botox ou des trucs comme ça, repulpe. Mm-hmm. Donc, il y a différents. Puis souvent, ils vont utiliser un langage pseudo-scientifique que tu dis « wow, ça a l'air complexe, ça a l'air sérieux », mais dans le fond, ça veut rien dire du tout. Mais bon, c'est leur façon hein, de nous convaincre que c'est sérieux, que c'est cliniquement prouvé et puis que ça va fonctionner.
Oui, puis tu parlais tantôt aussi de l'importance de se renseigner et tout ça quand je te parlais bon de ma fascination pour le tissu adipeux. Puis justement, par rapport à tous les produits de la peau, j'ai écouté un épisode de Balado super intéressant avec des dermatologues qui parlaient justement des différents composés qu'on va retrouver dans différentes crèmes, bon des sérums, l'acide hyaluronique, la vitamine C, blablabla. Là, tu te dis, oh mon Dieu, OK, c'est des bonnes molécules pour ma peau. Puis en fait, ces molécules-là, de la façon qu'elles sont dans les crèmes, dans la forme dans laquelle elles vont se retrouver, elles vont juste rester à l'extérieur de la peau puis ne même pas être capables de la pénétrer, d'avoir un effet. Et pourtant, oui, ça se vend tellement cher. Donc, je crois que ça fait partie des outils qu'on a pour développer non seulement notre pensée critique, mais un filtre par rapport à ces messages-là.
Sais-tu que les molécules étaient trop grosses pour pénétrer la peau?
Oui. Oui, il y a ça. Puis aussi, disons, la vitamine C, c'est une vitamine qui est hydrosoluble, donc soluble dans l'eau. Mais quand tu as une barrière de gras sur la peau, bien, la vitamine C ne peut pas passer au travers. Donc, elle fait juste, elle reste là.
Tu sais, quand on dit qu'un produit ne remplit pas sa fonction, là, voilà un très, très bel exemple. Ah, c'est super intéressant, ça. Oui, donc il y a beaucoup de choses à faire. Puis peut-être en terminant, il y a une des initiatives, je pense, avec ma baguette magique toujours, parce que j'ai envie de m'en servir de cette baguette-là, c'est ce qu'est d'éduquer les parents. Parce que nous, on est des adultes, on accompagne des adultes, mais il y a quand même cette impression-là qu'on est éternellement en train de réparer des pots cassés. Tu sais, on répare les pots cassés pour soi parce que soi-même, on veut apprendre à faire la paix et sentir avec notre corps. Oui. Mais on accompagne aussi des personnes qui n'ont pas eu la chance de développer une saine relation avec leur corps. Mais à un moment donné, ce serait bien d'élever des enfants, hein, puis d'élever des générations futures en n'ayant pas à réparer quoi que ce soit, mais en les soutenant adéquatement dans le développement de cette relation-là avec leur corps. Donc, si, puis je pense que c'est nécessaire d'éduquer les parents, qu'il y ait des programmes dans les CLSC, dans les écoles, dans les centres communautaires pour soutenir les parents, hein, pour que ce soit des bonnes figures, des bons soutiens, des bons guides pour leurs enfants. C'est essentiel.
Oui, je pense que c'est tu ferais des belles choses avec ta baguette magique. On va espérer qu'on la trouve quelque part. J'aime le mentionner, mais bon, si on peut la faire exister pour de vrai, ce serait super.
Oui, tu la trouves.
Puis, de ta perspective de clinicienne, quand, disons, tu fais différentes interventions, que ce soit pour tes programmes de groupe ou individuellement, est-ce que dans la littérature scientifique, selon toi, il y a des connaissances ou certains enjeux pour lesquels on manque de données présentement, puis que ça pourrait être pertinent justement qu'on documente plus certains phénomènes, certaines interventions, afin d'être capable de mieux aider les gens?
Absolument. Il y a deux choses qui me viennent à l'esprit quand je t'écoute. La première chose, c'est qu'il faut savoir que l'image corporelle positive, c'est un concept qu'on est en train de comprendre puis on est en train de définir. Donc, ça devient... On a quand même besoin d'avoir un consensus, hein, ce qui fait qu'il va y avoir plusieurs études qui vont vouloir tester les bénéfices ou les répercussions de différentes interventions, mais les résultats s'attarder à décrire des constructs qui sont différents. Donc, ça devient difficile de comparer ou de savoir hein, qu'est-ce qui est plus efficace, à quel point c'est efficace, etc. Donc, le fait, je pense que j'ai très, très hâte qu'on comprenne mieux ce concept-là et qu'il y ait quand même quelque chose, une approche un peu plus homogène dans les études qui se font autour de l'image corporelle positive et des interventions pour améliorer l'image corporelle. Quelque chose qu'on est en train de faire, et je trouve ça tellement intéressant, c'est d'étudier la trajectoire de l'image corporelle de la population. Et ça nous a été, quand je te dis, on est en train de comprendre c'est quoi, on sait grosso modo c'est quoi, mais on ne sait pas encore comment est-ce que ça se développe, comment est-ce que ça fluctue au fil du temps. Là, on commence à le voir. Donc là, on voit qu'à l'adolescence, ce serait le moment où l'image corporelle est la plus fragile, ça remonte vers 20-24 ans, c'est à peu près stable à partir de 20-24 ans. Ça peut s'améliorer vers 50 ans pour X, Y raisons. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Puis il y avait des études longitudinales aussi sur autour de la période périnatale. Donc ça, aussi, parce que c'est quand même une sacrée transition là, dans l'expérience que les femmes ont de leur corps, vu qu'on n'en sait pas beaucoup sur le sujet, sur ce qui va être déterminant dans leur expérience à elles. Des fois, on peut se sentir impuissante parce que, bon, ben le ventre, il est comme il est, le corps, il est changé comme il est changé des fois de manière importante en très peu de temps. De mieux comprendre un petit peu comment est-ce que l'expérience du corps évolue à travers le temps selon les différentes populations, je trouve ça intéressant. Il y a une étude à ma connaissance qui a étudié l'évolution de l'image corporelle des personnes qui ont passé d'une image corporelle négative à positive. Donc ça, c'est chouette parce que c'est un peu...
C'est vraiment intéressant.
Oui, c'est pas juste on étudie des personnes qui sont mal dans leur corps ou on étudie des personnes qui sont bien dans leur corps, mais on étudie des personnes qui sont passées de mal à bien. Et ça, ça correspond à la population ou à la clientèle que j'ai. Donc, c'est beaucoup plus, ça se rapproche beaucoup plus de la réalité, beaucoup plus de leur réalité. Donc, je sens qu'on a besoin d'en savoir beaucoup plus sur cette trajectoire-là, sur ce qui va être game changer, etc. Puis le deuxième point, c'est qu'on sait qu'il y a plein de compétences cognitives, émotionnelles, relationnelles qui vont aider à améliorer l'image corporelle. Par exemple, la fonctionnalité du corps, la flexibilité corporelle, l'incarnation du corps, l'autocompassion, il y en a énormément. Après, ce qui manque des fois, c'est de voir, on sait que ça marche, mais maintenant, comment est-ce qu'on le transmet aux gens?
Ouais.
Puis j'ai envie de te dire, c'est comme le petit bout qui manque de... Il y a plein d'exemples d'interventions, mais peut-être que c'est pas tout à fait complet ou avoir des interventions dans un contexte assez scientifique. Donc, c'est un groupe d'étudiants, on les voit pendant 4 semaines, ça dure 1h30, etc., etc. Donc, ça se colle un petit peu moins à la réalité de clinicienne. Donc, maintenant, on est peut-être rendu, on commence à comprendre le « quoi ». Puis on est rendu à préciser le comment maintenant.
Oui, oh non, l'aspect translationnel de comment on applique ça après dans la vie de tous les jours. Puis c'est pour ça aussi que dans les équipes de recherche, je trouve ça toujours tellement important qu'il y ait des cliniciens impliqués, surtout pour des interventions comme ça où, je veux dire, un chercheur qui maîtrise parfaitement les différentes méthodologies, façon d'étudier les statistiques et tout, va avoir une idée brillante. Mais ensuite, quand il manque l'aspect pratique de comment est-ce qu'on l'applique sur le terrain, c'est tellement, tellement important.
Tout à fait, tout à fait. Donc, j'ai hâte qu'on ait vraiment une meilleure idée de ce qui fonctionne, des interventions qui sont efficaces, tant au niveau clinique qu'au niveau de la société de manière générale. Donc, de plus en plus, on est en train de mettre sur pied des micro-programmes, des micro-interventions qu'on peut utiliser sur les réseaux sociaux, sur Internet pour aller chercher les jeunes. Donc, il y a plusieurs niveaux d'intervention. Je pense qu'on est vraiment au balbutiement en ce moment, mais ça semble quand même prometteur. Il y a du beau à l'horizon.
Oui, c'est super. Puis, je vois le temps qui file. Je voulais qu'on discute un petit peu. Tu l'as mentionné en début. Tu as publié ton premier livre cette année. Un livre vraiment fabuleux que j'ai beaucoup apprécié lire, qui est très pratique. Donc, j'aimerais que tu en parles un peu. Si quelqu'un, justement, à la lumière de notre discussion, se cherche des outils. Puis, qu'est-ce qui a guidé un peu? Parce que tu as quand même une démarche qui est bien structurée pour l'ensemble du livre. Donc, c'est ça. Parle-moi de ton premier bébé.
Ben oui, avec plaisir. Et c'est un bébé, effectivement. Et d'ailleurs, parce que ça a pris 9 mois entre le moment où j'ai commencé.
Littéralement.
Il était prêt à sortir sur les tablettes. En fait, ce livre, ça fait quand même très longtemps que je l'ai en tête. Ça fait longtemps que je veux mettre ou proposer un guide. Un peu comme je te disais au début, l'idée, c'est toujours comment est-ce qu'on peut rejoindre un maximum de personnes, puis des personnes qui n'ont pas nécessairement l'argent de consulter une psychologue ou une nutritionniste. Puis finalement, j'ai été contactée. Vraiment, on a cogné à ma porte, on m'a proposé d'écrire un livre, puis c'était ce livre-là qu'on me proposait de faire, donc c'était génial. Il était déjà pas mal présent dans ma tête, et ce que je voulais faire, ce que j'avais en tête, c'était vraiment de guider la personne dans toutes les facettes de son image corporelle. On a vu tantôt que c'est pas si simple que ça, c'est pas je me trouve belle ou pas, c'est ben comment je me sens en société, comment j'utilise les réseaux sociaux, comment je connecte à mon corps, c'est quoi mes standards de beauté, etc., etc. Donc, je voulais vraiment accompagner la personne à travers chacune des composantes de son image corporelle. Et l'idée, c'est qu'elle puisse piger dedans. Vraiment. Il y a certaines composantes qui vont résonner fortement en elle parce que ben elle s'y reconnaît et d'autres composantes qui ne vont pas résonner en elle ou de manière secondaire, donc ce ne sera pas pour tout de suite. Mais je voulais qu'elle ait tout en main. Et puis, effectivement, il y a comme un fil conducteur, il y a quand même une espèce de logique dans les chapitres. On part vraiment, j'ai une image, on part vraiment du cœur de la personne. On revient vraiment à son cœur, à son essence et un petit peu comme on disait au début de notre échange, quel est le sens qu'elle accorde à la beauté? Pourquoi est-ce qu'elle s'y accroche de cette façon-là? Puis tranquillement, on sort vers l'extérieur, son apparence physique, les comportements de vérification, comment est-ce qu'elle traite son corps. puis on s'ouvre à la société. Donc, je ne sais pas si tu l'avais vu qu'il y avait cette espèce de mouvement-là dans le livre, mais c'est vraiment de... On commence par se pencher sur soi, s'apaiser soi, mieux se comprendre soi, puis après, on s'intéresse à soit son corps et la société et les autres, parce que ben, ça fait aussi énormément partie de la relation au corps. Puis il y a toujours cette... c'est important aussi qu'il y ait cette espèce d'équilibre entre du contenu théorique, comme on disait, comprendre les choses, mais aussi se comprendre, pour moi, c'est d'augmenter son pouvoir d'action. C'est d'augmenter son sentiment de maîtrise, OK? Parce que c'est pas intéressant de lire « fais ci, fais ça » si ça fait pas de sens pour la lectrice. Donc, vraiment, cette idée d'éduquer la personne, de la sensibiliser, qu'elle comprenne les choses. Et après, hein, il y a l'autre partie de chaque chapitre qui va être concentrée sur des exercices, soit de réflexion ou des stratégies concrètes à appliquer là, au quotidien. Parce que c'est à travers l'expérience, c'est à travers l'action qu'on progresse le mieux finalement. T'sais, des fois, on est plus confortable dans le fait de consommer, de lire, d'écouter des podcasts, d'échanger avec quelqu'un, puis on peut être frileux à se mettre en action, mais c'est important de le faire aussi.
Mm-hmm. Oh, j'ai adoré honnêtement les exercices de réflexion, puis en toute transparence, moi souvent je lis beaucoup le soir avant d'aller faire dodo, là, donc autant, bon, des fois je peux me taper des lectures un peu plus lourdes, puis bon, je dors quand même, mais même tes exercices réflexifs en fin de journée, je les trouvais très accessibles, très pertinents, ils m'ont fait réfléchir, puis je veux dire, je m'intéresse beaucoup à l'image corporelle, je me considère quand même assez renseignée pour certains aspects, mais même ça m'a fait réfléchir sur d'autres aspects auxquels j'avais pas pensé, là, donc je recommande vivement cette lecture-là aux auditeurs, aux auditrices. Là, puis c'est vraiment un très beau travail que tu as fait avec ça. Là. À mon sens, c'est le genre de petit livre qui devrait se retrouver au secondaire, qu'on a une liste de manuels à acheter obligatoire. Là. C'est quelque chose que j'aimerais voir inclus dans le cursus scolaire.
Oh, t'es gentil. Mais ça fait vraiment plaisir à entendre. C'était le but, tu sais, que ça... Ben, que ça fasse du bien, que ça renseigne, que ce soit pas trop lourd non plus. Puis je le voyais aussi comme ce livre qu'on met dans toutes les bibliothèques, toutes les maisons, qu'on va chercher ou sortir une fois de temps en temps pour un petit refresh, puis qu'on repose. Mais je le vois aussi comme cet outil-là dont plusieurs ont besoin.
Ouais. Oh non, je pense qu'il remplit bien ce besoin-là. Écoute, en terminant, je te parlerai pendant des heures encore. Je trouve que c'est vraiment un sujet important et fascinant. Tu as mentionné ton livre qui est disponible pas mal dans toutes les librairies. Est-ce que tu l'as nommé en passant? Je pense que je le nomme dans l'intro, là, mais rappelle le nom de ton livre si les gens veulent le chercher.
Oui, donc le livre, c'est « Faire en paix, enfin la paix avec mon corps, un guide pour apprendre à s'aimer avec ou sans bourrelet ». Et en général, je m'en fâche parce que c'est un long titre.
Oui, puis je mettrai le lien dans la description de l'épisode là, où est-ce que les gens peuvent aller l'acheter. Oh, puis si les gens sont curieuses de suivre ce que tu fais, peut-être même suivre tes programmes, ton contenu, où est-ce qu'on te suit?
Ben, à différents endroits, ce serait d'abord et avant tout sur meilleurjour.com au pluriel ou sur Instagram ou Facebook, meilleurjour au pluriel encore une fois. Et puis oui, comme tu disais, mon livre, il se trouve qu'au Québec pour l'instant, mais vraiment partout, dans toutes les librairies et en ligne, etc. Donc, il est facile à trouver.
Super, puis j'encourage aussi les gens à te suivre. Moi, je t'ai connue via Instagram, tu fais vraiment des belles infographies, du beau contenu qui fait réfléchir, puis qui est toujours bien rigoureux scientifiquement aussi, là, quelque chose que j'apprécie énormément de ton travail. Donc, je te remercie du fond du cœur d'être passé au podcast. C'était vraiment super intéressant et enrichissant comme discussion. Puis, on est l'été au moment où on enregistre, donc je crois que c'est toujours pertinent de se renseigner sur l'image corporelle, mais je crois qu'on est dans une période où c'est encore plus pertinent de le faire.
Absolument. Ben écoute, un gros merci à toi, Myriam. C'était un plaisir d'échanger avec toi.